Une heure d'actu avec Serge Carrel.
Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le jour de Martin Luther King, ce fameux pasteur noir américain qui a lutté pour l'avènement de l'égalité entre noirs et blancs dans les années 50 et 60, avant de mourir assassiné en 1968. Alors, pour évoquer ce disciple de Jésus-Christ, nous recevons Serge Mola, auteur de Martin Luther King, prophète. Serge Mola, bienvenue.
Merci, bonjour.
Alors, merci d'être en direct aujourd'hui. Vous êtes pasteur retraité, depuis peu, de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Vous êtes aussi un spécialiste de Martin Luther King et de l'Église noire américaine. Alors, en deux mots, pour nous permettre un peu de reposer le cadre, qui est Martin Luther King ?
Alors, très rapidement, c'est un pasteur baptiste, né dans une famille de pasteurs, puisque son père l'était et son grand-père également, pasteur baptiste dans le sud, à Atlanta, devenu, en raison des circonstances, en raison d'un boycott de bus qui va commencer en 1955, devenu un porte-parole, puis le leader, un des leaders, le leader le plus important du mouvement des droits civiques qui se met en place, qui débute en 1955, qui va durer une dizaine d'années, mais voilà, il va lutter contre l'intégration d'abord, pour les droits civiques, puis son combat s'est élargi jusqu'à concerner la guerre du Vietnam et la lutte contre la pauvreté. C'est alors qu'il organise une immense campagne avec des blancs, des noirs, des Chicanos, des Native Americans, contre la pauvreté qu'il est assassiné.
Donc ça, c'est en 1968, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais expliquez-nous en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on fête un MLK Day, donc un jour de Martin Luther King, et que ce férié, c'est même un jour férié ?
Oui, c'est un jour férié, le troisième de lundi de janvier, on rappelle cette figure qui a rassemblé une part de l'Amérique pour le meilleur, le meilleur, c'est-à-dire pour le combat pour la justice, pour un pays qui est différent et qui est plus intégré qu'il n'était évidemment en 1955, époque où la ségrégation organisait toute la vie, notamment dans le sud des États-Unis. Donc cet homme, on peut en être fier. Alors ce qui est beau avec cette guillemets récupération du personnage, c'est que même s'il est récupéré, chaque troisième lundi de janvier, c'est l'occasion de rappeler cette histoire, de rappeler la non-violence, de rappeler des valeurs extrêmement fortes, et ça n'est pas rien.
Alors j'aimerais vous proposer là, en quelques dates, en trois dates, de nous rappeler un peu, de raconter cette histoire de Martin Luther King. Alors tout d'abord, la première date d'importance, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure, c'est 1955. Qu'est-ce qui se passe concrètement en 1955 dans la vie de Martin Luther King ?
Donc à ce moment-là, King est jeune pasteur à Montgomery. Personne n'a spécialement entendu parler de lui. Il fait son travail de pasteur. Simplement, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refuse de laisser sa place à un blanc alors que c'est la loi locale qu'il y invite.
Donc ça se passe dans un bus.
Dans un bus, voilà. dans les transports publics de la ville. Mm-hmm. Et suite à cela, une caution est payée. Et puis évidemment, suite à cela, quelques noirs, parce que cette femme fait partie d'un mouvement de femmes, il y a un syndicaliste aussi, on rassemble quelques pasteurs, parce que les pasteurs sont les leaders, les responsables du lieu autogéré, qu'est l'église noire. À partout ailleurs, ce sont les blancs qui gèrent les choses. Donc un petit groupe se met en place et décide d'un boycott. Ce boycott, il l'imagine juste pour protester, au fond, contre ce qui vient de se passer à l'encontre de Mme Parks. Mais ce boycott durera finalement 381 jours.
Donc plus d'une année de boycott des bus. Et vraiment, les gens, en tout cas les Noirs...
Il faudra changer la loi, puisque à la fois il y a le combat local boycott, et puis il y a le combat législatif, donc de cour en cour jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Eh bien, la loi qui régit les bus sera déclarée anticonstitutionnelle. Et évidemment, c'est un pas décisif qui en entraînera bien d'autres après.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce pasteur d'une petite église, baptiste de Montgomery, va devenir quelque part une sorte de figure de proue de ce mouvement et va quelque part acquérir une notoriété ou une fonction un peu de porte-voix de ce mouvement.
Totalement. Alors, bien sûr qu'il n'est pas le seul leader, il en est un parmi d'autres. Mais de porte-parole, il devient vraiment non seulement celui qui traduit, qui exprime, mais il est celui aussi qui influence, qui donne un certain nombre de directives, d'impulsions décisives, et notamment en conjuguant la résistance non violente avec le terreau chrétien de l'Église noire. Donc une part de l'Église noire va retrouver sa militance.
Alors je vous propose maintenant d'écouter quelque chose qui est tout à fait fameux, que de nombreuses personnes connaissent. C'est le fameux discours prononcé en 1963. On est là à Washington. Et le discours s'intitule « I have a dream ». Alors, expliquez-nous un petit peu dans quelles circonstances Martin Luther King délivre ce discours, finalement l'un des plus fameux de l'histoire du XXe siècle.
Alors, c'est à l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Voilà, il y a cet immense rassemblement qui rassemble à peu près 250 000, 300 000 personnes, non majoritairement noires, mais des milliers de blancs également. Tous les leaders noirs sont là, un certain nombre d'artistes, tous s'expriment. King est l'un des derniers à s'exprimer dans cette journée. Et puis il a prévu un discours assez pointu, mais ce dont on se souvient, c'est effectivement l'expression « I have a dream », qui est la fin improvisée du discours. Tout à coup, semble-t-il, à la fin, Mahalia Jackson, qui n'est pas très loin de lui, lui dit « Mais parle-leur de ton rêve !» Et il se lance et dit ce « I have a dream » qui conjugue magnifiquement la métaphore du rêve américain et l'espérance prophétique biblique.
Alors, on écoute quelques instants, si vous êtes d'accord, Serge Mola, on écoute quelques instants et quelques mots de « I have a dream ».
The Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.
Qu'est-ce que ça vous fait, Serge Mola, quand vous entendez cette voix?
Donc moi j'ai l'impression d'entendre non seulement un tribun, non seulement j'allais dire un rêveur, puisque dream veut dire rêve, mais plutôt quelqu'un qui porte une vision au sens presque prophétique du terme. Hein. Il annonce quelque chose avec une force exceptionnelle, ancrée dans l'expression de ses pères prophètes de l'Ancien Testament. Hein.
Voilà, on entend « I have a dream ».
That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
C'est vraiment magnifique hein, quand on écoute ce tribun, ce prophète, hein, comme vous dites, Serge Mola, ces alternances entre ce qui se passait autrefois et finalement cette aspiration extraordinairement profonde à un monde nouveau.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il arrive, alors même qu'il ne cache pas les difficultés présentes, hein, je veux dire, il arrive à redonner un élan, une espérance à toutes celles et ceux qui sont là. Maintenant, il le sait, les choses ne seront pas faciles. Et trois semaines après ce moment de guillemets de grâce, eh bien, la plus dure réalité rejoint le mouvement puisque quatre petites filles meurent dans l'explosion d'une église à Birmingham.
Alors, je vous propose pour continuer cette évocation de la vie de Martin Luther King en trois dates, de reprendre la date du 4 avril 1968. Alors, Serge Mola, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là.
Alors, il sera assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Alors, que fait-il à Memphis ? Que fait-il à Memphis? Parce qu'il est en train de préparer avec son organisation, il est en train de le faire depuis des mois, une immense campagne en faveur des pauvres. Et quand je dis des pauvres, c'est non seulement des pauvres noirs américains du sud profond, mais ce sont aussi des pauvres blancs, par exemple dans la région des Appalaches, ce sont aussi les travailleurs plus ou moins frontaliers la région qui borde le Mexique, etc., etc., les Indiens des États-Unis. Donc les plus pauvres, l'idée c'est de préparer une immense campagne qui rassemblerait des représentants de toutes ces communautés à Washington, non loin de la Maison-Blanche. Cette campagne est extrêmement difficile, il est celui qui tient tous les fils. Et malgré tout, il vient à Memphis soutenir une grève des éboueurs de la ville. Il vient les soutenir parce que, à ses yeux, où qu'elle se situe, l'injustice menace la justice. Donc on ne peut pas mener un combat extrêmement large en méprisant ce qui se passe sur le terrain. Donc il vient, à leur demande, soutenir ces éboueurs. La veille du 4 avril, le soir du 3, il doit s'exprimer dans une église, il est éreinté par les mois qui précèdent, et il envoie son ami Abernathy. Abernathy lui téléphone peu après en disant « c'est pas moi qui veux, c'est toi ». Alors il vient sur place, et il va prononcer ce qu'est son dernier discours enregistré.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire, hein, si les auditeurs veulent regarder ça, ou écouter ça sur YouTube, c'est tout à fait magnifique. Il a une sorte de prémonition du fait qu'il arrive presque au terme de sa vie.
C'est-à-dire que là encore, il va essayer de réinsuffler de l'espérance à celles et ceux auxquels il s'adresse, leur dire « mais ne lâchez rien, au fond, hein, ne lâchez rien, votre combat est juste, et quand on mène un combat juste avec des moyens qui le sont également, c'est-à-dire des moyens non violents, eh bien, God is on our side.
On Dieu est de notre côté.
Dieu. Voilà. Et en fin de discours, il se compare, il s'identifie à Moïse avec le peuple d'Israël. Moïse, et il fait allusion là à un passage de la fin du Deutéronome, où Moïse voit la terre promise à son peuple, mais il sait que lui, il ne l'atteindra pas. Et il dit, voilà, il y a promesse à mon peuple, mais moi, Martin Luther King, je ne l'atteindrai pas. Il s'identifie totalement, et puis évidemment, comme le lendemain il est assassiné, ses paroles prennent un sens énorme.
Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce pasteur, hein, finalement, au début, dans les années 50, très inscrit dans sa réalité communautaire, ecclésiale et paroissiale, va finalement petit à petit, tout en gardant un ancrage dans l'Église noire, va acquérir une sorte de dimension de militant social à l'échelle des États-Unis, et il va participer à de nombreuses manifestations dans lesquelles le chant, et c'est surtout ce matin pour ça qu'on vous a invité, le chant va jouer un rôle très important. Alors, expliquez-nous en quoi, Serge Mollin.
Alors, le chant, qu'on soit chez les Noirs ou dans quelques combats que ce soit, le chant peut jouer un rôle magnifique parce que le chant fédère. Il suffit de penser, pour prendre un exemple qui n'est pas ecclésial, à l'international chanté par les communistes pendant longtemps, n'est-ce pas ? Le chant fédère le groupe. Alors, le chant, bien sûr, il est présent dès les premiers rassemblements de 1955, puisque ces rassemblements ont lieu dans le seul lieu où les Noirs peuvent gérer totalement ce qu'ils disent, ce qu'ils font et leurs expressions, c'est-à-dire les églises. Donc les premiers chants qui accompagnent ces grands moments de rassemblement sont des hymnes, sont des cantiques. Bon, ok. Mais peu à peu, ces chants-là, ces chants d'église, vont être complétés par des compositions dont on ne connaît pas forcément celui qui a écrit la partition, parce que souvent il n'y a pas de partition, la chose est née comme ça. Puis peu à peu, donc des chants très contextuels où l'on parle du gouverneur Wallace, on parle du shérif Pritchett ou je ne sais, des chants très contextuels vont accompagner le mouvement et permettre non seulement de fédérer le groupe, mais permettre de répéter le message, les consignes non violentes, et de faire que ces, violence et cette résistance habitent vraiment celles et ceux qui marchent et qui chantent. Et dans les ateliers, parce que on n'est pas si facilement que ça non-violent, donc il y avait des ateliers où on jouait des jeux de rôle pour s'entraîner à manifester non-violemment, à résister non-violemment. Dans ces ateliers, il y avait toujours une part dévolue au chant.
Donc, alors, là, Serge Mollat, on veut juste pas se priver hein, d'en écouter un, bien entendu.
C'est très important de les entendre.
Voilà, bien entendu, c'est pas une réalisation studio, c'est une prise de son journalistique en live. On en écoute un premier. Alors Serge Mollat, on retrouve hein, cette formule que vous avez mentionnée tout à l'heure, cette femme qui dit « God is on our side », on voit un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Il y a des sortes d'affirmations très fortes, de convictions, de foi très marquées.
C'est-à-dire que le chant, comme bien des aspects dans l'expression noire américaine, le chant, c'est call and response, hein, c'est-à-dire c'est un dialogue. Alors il y a le dialogue entre le soliste et l'assemblée, ça peut être le dialogue entre le pasteur et les auditeurs de la prédication. Il y a toujours un dialogue. Alors le chant peut durer très longtemps parce que les paroles, il y a celles qui sont connues et classiques, et puis il y en a d'autres qui peuvent se rajouter au fur et à mesure et proposer par le soliste en place ou par telle ou telle personne dans l'assemblée. Hein. Ainsi, pendant la marche de Selma, il y a une marche qui, il y a un chant qui accompagne la marche pour motiver les gens à tenir la distance, si j'ose dire. Il y avait un unijambiste qui s'était lancé dans cette marche et qui dit à l'un des chanteurs, mais fais un couplet. Et voilà, et le couplet naît sur cet homme qui s'est lancé dans cette marche alors qu'il a un handicap. Donc, continuellement, le chant accompagne vraiment la marche, le sit-in, la résistance non-violente.
Alors Serge Mollat, on s'en écoute un deuxième pour le plaisir. Serge Mollat, est-ce qu'on peut penser là que ce chant a été enregistré dans une église ?
Alors, devant ou dehors, mais clairement, hein, tous ces enregistrements du mouvement des droits civiques sont quasiment aucun n'est fait en studio. Hein, je veux dire, tout ça se passe, que ce soit en église, et souvent en église, avant d'aller affronter peut-être la police qui vous attend dehors. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne chantait pas une fois dehors. Et on chantait aussi en prison. Et la prison où on séjournait de très très nombreux jeunes et adultes a été un lieu d'expression et d'apprentissage des chants extrêmement importants.
Ce qui est important
là,
aussi de dire...
The light of
oui, qu'est-ce que ça signifie
la faire briller.
Voilà. Et de quelle lumière s'agit-il ?
Alors, au départ, c'est évidemment de nouveau un chant religieux. Et parfois... on disait cette lumière, c'est la liberté que je veux, la liberté qui m'habite, je vais la répandre, quelles que soient les difficultés rencontrées. Alors là, on a dans un chant assez joyeux, etc. Maintenant, il pouvait aussi y avoir, évidemment, toutes les types d'expressions. Hein. Il peut y avoir des moments extrêmement graves où on est sur d'autres tonalités.
Lorsque vous évoquez ces marches et ces chants hein, de protestation ou des freedom songs, hein, comme on les appelle parfois, donc des chants de liberté, Serge Mollat, vous mettez souvent en avant le fait qu'il y a une dimension aussi de prière qui est là. Il y a une spiritualité forte derrière ces manifestations, en tout cas pour certains.
Alors, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, je redis que ces chants, pour la plupart, sont nés notamment du terreau ecclésial, donc liés à des cantiques, liés à des textes bibliques mis en musique, et ils expriment effectivement le dialogue avec Dieu, la conversation avec Dieu. Donc, ils vont demander à Dieu de les accompagner, ils vont demander à Dieu de les renforcer. Par exemple, il y a un chant beaucoup chanté dans les manifestations de sit-in, « Just like a tree, I shall not be moved », je ne bougerai pas, je resterai ancré, enraciné comme un arbre planté au bord de la rivière, et quand on chante ça, on est en train de chanter un psaume. Hein. Donc l'expression biblique, tout à coup, trouve un déploiement important via ces chants, que l'on soit croyant ou non. On chante cela parce qu'on fait partie du groupe qui résiste.
Alors Serge Mola, on a commencé notre émission en parlant de Martin Luther King. Dans ce contexte de manifestation et de spiritualité et de foi en Dieu, Martin Luther King lui-même se profile comment ? C'est quelqu'un qui, du début à la fin, est foncièrement croyant ? Est-ce qu'il y a des étapes un peu dans sa vie de foi ?
Alors bon, il est né dans une famille chrétienne engagée, il devient pasteur, il se forme et il n'avait aucune intention de devenir le leader qu'il est devenu. Son projet à lui, c'était une fois ses études terminées, sa thèse de doctorat terminée, et il est en train de la finir quand il arrive comme jeune pasteur à Montgomery. Son projet, c'est un jour d'enseigner la théologie dans une école de théologie, dans une faculté. Bon. Le boycott commence et tout à coup sa vie va basculer parce que ce projet, il doit l'abandonner, en tout cas pour quelque temps, il croit pour quelque temps, peut-être quelques mois, mais il l'abandonne définitivement. Et là c'est intéressant parce que début 1956, donc on est à peu près un mois et demi après le début du boycott, il y a une nuit où il vit une expérience très particulière. Alors évidemment, personne n'en est témoin, c'est lui qui la relatera, il la relatera oralement un tout petit peu à l'époque, il en parlera à demi-mot dans un de ses livres, et puis de temps en temps, il en donne un témoignage, et même 10-11 ans plus tard, il en donne un témoignage très très fort à Chicago à l'occasion d'une prédication. Il traverse donc en janvier 56, ce que j'appellerais moi une espèce d'expérience mystique, où un soir, rentré après un rassemblement où il est une fois encore fatigué et il n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de dormir, eh bien, à peine couché, le téléphone sonne, il est menacé de mort, lui et sa famille, et là, il n'en peut plus, il se dit non mais c'est plus possible, il essaye de mettre de l'ordre dans tout ça, rationnellement, il peine, alors il dit qu'il se met à prier et dire, ben, écoute Seigneur, moi j'en peux plus, donc voilà quoi.
Et là, il y a une voix qui lui parle, ou il entend une voix.
Voilà, c'est comme ça qu'il le raconte, mais il le raconte avec les mots de la culture africaine-américaine. Hein. Il dit, j'ai entendu une voix me dire, Martin Luther, lève-toi pour le droit, la justice et la vérité, et je ne t'abandonnerai jamais. Alors évidemment, certains biographes se disent, bon, ben, il arrange la réalité. Moi, j'en sais rien, ce qui m'impressionne et ce que je retiens, c'est qu'il y a un avant et qu'il y a un après.
Et qui va s'engager et que ça va devenir cette expérience-là, une expérience porteuse.
Une position qu'il ne lâchera plus jamais.
Voilà, Serge Mola, merci beaucoup d'avoir évoqué toute cette figure tout à fait extraordinaire, figure historique aujourd'hui de Martin Luther King. Une question vous-même, donc vous avez consacré votre thèse de doctorat, Les idées noires de Martin Luther King, un livre dernièrement, Martin Luther King, prophète, donc vous avez consacré une bonne partie de votre vie à cette figure de Martin Luther King. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous fascine tant ?
Écoutez, je suis ado, donc j'ai 13 ans quand il est assassiné, ça me frappe, je découvre la non-violence, je lis Gandhi, et puis cet homme conjugue l'aspiration à la justice que j'avais, ou que j'ai encore, je l'espère, et comme bien d'autres jeunes ou moins jeunes, il conjugue cette aspiration de la justice avec des convictions chrétiennes. Et cette conjugaison, pour moi, a été extrêmement importante, l'est encore. Et à travers lui et une culture que j'aime beaucoup, à savoir notamment celle de la musique religieuse noire américaine, cette culture, cette tradition m'a énormément apporté, continue à m'apporter et à me faire grandir.
Alors Serge Molin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Un air d'actu aujourd'hui sur Radio Air. Je rappelle que vous avez publié plusieurs ouvrages sur Martin Luther King aux éditions Labor et Fides. J'ai mentionné tout à l'heure Les idées noires de Martin Luther King et puis le livre Martin Luther King, prophète, qui est paru il y a de ça maintenant 3 ans. Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter notre émission ou voir aussi tout un petit dossier que nous avons mis en ligne sur le site radio-air.ch. N'hésitez pas à visiter notre site web. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Alors Serge Molin, on ne va pas se quitter sans s'écouter un petit gospel, un gospel de Fonte La Basse, dans une autre version de This Little Light of Mine. C'est toujours extraordinaire d'imaginer que cette petite lumière puisse être le Christ.
Bien sûr, c'est la lumière de la foi, c'est la lumière qui éclaire nos pas.
Excellente journée à vous, Serge.
Merci beaucoup à vous tous.